mise en problème de l'abstraction. La question du sens commun a changé. Souder l'imagination au sens commun n'est plus d'abord la tâche du philosophe. C'est ce que tentent aujourd'hui les activistes, faire sens en commun. Non pas se mettre d'accord, mais savoir ensemble que les raisons de résister, aussi différentes soient-elles, ont besoin les unes des autres parce que c'est ensemble qu'elles donnent sens à l'innovation agriculturale qu'on appelle OGM. Parce que la question de l'agriculture n'est pas une question spécialisée, mais une question dense d'enjeux, une question qui, depuis le néolithique, noue les pratiques humaines aux vivants non humains, à la terre, au climat, sur le mode d'une interdépendance irréductible et sans cesse réarticulée. Si on en revient à l'image de la philosophie face au sens commun qui rumine, il importe donc que les philosophes abandonnent ici l'image d'un sens commun comme attribut individuel, ce que chaque humain aurait ou devrait avoir en partage et qu'il demande que l'on ne méprise pas. Il faut imaginer que les descendants des citoyens d'Athènes sont désormais celles et ceux qui savent que, au-delà de cette demande, aucune vérité unanime ne sera instaurée ou restaurée. Ce qui les fait ruminer est le sens même d'un commun irréductiblement problématique, d'une composition sans cesse à reprendre et toujours située par ce qui les oblige à penser ici et maintenant, pas en général. Non en tant que défenseur d'une vérité, mais en tant que participant à une aventure sans destination ni définition héroïque. Cela étant dit, il s'agit aussi de ne pas oublier que l'image dont nous sommes partis est elle-même située. Ce sont les descendants des citoyens d'Athènes qui sont habités par la rumination, et c'est à un philosophe qu'ils s'adressent. Nous ne savons pas ce que pourrait bien signifier le sens commun ailleurs. Je reviendrai sur cette question. À ce stade, je voudrais partager le paysage ouvert par le possible que nous devons aux activistes. Pouvoir faire le pari que la sombre volonté de ne pas penser, de ne se laisser ébranler par rien, qui, à juste titre, peut nous faire peur, ne nous confronte pas à ce que nous devrions reconnaître comme la triste vérité, un sens commun qui a besoin de croire dans l'autorité de ceux qui savent, car ils seraient désespérément incapables de faire la différence entre savoir et opinion. C'est pourquoi je voudrais donner leur pleine valeur à des expériences et des savoirs que nous savons partager avec bien d'autres. Lorsque nous ne sommes pas sous l'emprise d'une théorie, nous sommes toutes et tous capables de jongler avec des ressources contextuelles, pratiques et sémantiques multiples, selon les exigences des situations, et nous ne sommes pas saisis de désarroi à l'idée que ces situations puissent importer à d'autres sur un mode différent. Au contraire, cela nous intéresse. Cela entre dans nos ruminations et active nos imaginations. Nous sommes avides de romans qui font de nous les témoins attentifs des passions, des doutes, des rêves et des effrois des protagonistes. Nous sommes amateurs de livres d'histoire, d'ethnologie, d'éthologie animale, qui explorent la manière dont d'autres, humains ou non humains, se sont rapportés ou se rapportent à leur monde. C'est l'imagination que nous devons à la fiction, celle qui nous apprend qu'une vérité peut toujours en cacher une autre, mais qu'aucune n'est seulement relative. Cette imagination est ce que ceux qui ont basculé dans la haine ont oblitéré. Ce pourquoi on pourrait dire qu'ils ont perdu le sens commun. Mais cette catastrophe n'a rien à voir avec ce qui est souvent reproché aux gens du commun, lorsqu'elles ou ils témoignent de ce qui leur importe. Ils manqueraient de recul, ils ne verraient pas ce que nos amis anglo-américains appellent « the big picture ». Seule celle-ci permettrait d'accéder à une conception dite « impartiale », de laquelle découlera assez souvent la condamnation d'attachement que leur partialité rendrait aveugle. Savoir faire abstraction de ce à quoi nous tenons et de ce qui nous tient, c'est plutôt ce à quoi nous sommes sans cesse exhortés. C'est l'aune à laquelle nous sommes évalués. C'est le sens des dispositifs qui nous séparent de ce que nous savons pour nous inculquer la docilité, le respect des règles, définissant ce que nous avons le droit de savoir. C'est ici que Whitehead peut nous aider, car dans le vocabulaire whiteheadien, faire abstraction n'est pas la marque d'un quelconque privilège. Pour Whitehead, la perception est en elle-même un triomphe de l'abstraction. Elle est sélective et partiale, orientée par les besoins de l'action. Ouvrez les guillemets. Le premier principe de l'épistémologie devrait être que les aspects changeants, variables de nos relations avec la nature soient les thèmes premiers de l'observation consciente. Ceci est le sens commun, car on peut faire quelque chose à leur sujet. Les permanences organiques survivent par leur propre dynamisme. Notre cœur bat, nos poumons absorbent l'air, notre sang circule, notre estomac digère. Fixer son attention sur des opérations aussi fondamentales exige une réflexion avancée. Fermez les guillemets. Et ceci vaut pour tous les animaux que Whitehead définira comme supérieurs, capables d'observer, de faire attention, d'interpréter. C'est-à-dire, ceci vaut avant que le langage ne s'en mêle. Et le langage lui-même n'est devenu porteur de l'impératif d'avoir à faire abstraction que dans le monde lettré, dominé par l'idéal du dictionnaire lorsqu'il s'est agi d'apprendre que les mots devraient, sauf l'attitude donnée au poète, avoir une signification indépendante des rapports à la réalité immédiate à laquelle ils participent. La capacité d'abstraction n'est donc pas le privilège de la pensée, ce qui permet de l'authentifier. Whitehead résiste à un jugement dont les prémices remontent à ce dont Socrate essaya, sans grand succès, de convaincre les habitants d'Athènes. Il était incapable de dégager la signification de termes tels que courage, vertu ou justice des situations concrètes qui les illustraient. Ce qui signifie ils étaient incapables de pensées abstraites. Mais aujourd'hui, le « que nul n'entre ici s'il n'est géomètre » gravé, dit-on, à l'entrée de l'académie fondée par Platon, est devenu un impératif pédagogique. Nul ne devrait sortir de l'école primaire sans avoir cassé tout lien entre un morceau de tarte divisé en parts égales et une fraction, celle-ci ne devant pas être confondue d'autre part avec un nombre fractionnaire. L'épreuve subie à l'école par les enfants qui doivent apprendre les étranges exigences d'une pensée abstraite est susceptible, lorsque l'enseignante ne fait pas sentir à ses élèves l'aventure engagée par les mathématiques, de produire ce que Stella Baruch appelle des automates. Le sens commun est alors effectivement torpillé, sidéré, puisque ce sont des maths. Des élèves pourront conclure froidement d'un exercice que 5 moutons et demi, nombre fractionnaire, ont été menés à l'abattoir. Whitehead ne s'intéresse pas à la pensée abstraite, mais il n'attribue pas non plus aux enfants une pensée concrète. Pour lui, il n'y a pas de pensée sans abstraction. La pensée suppose l'abstraction. En revanche, ce qui le préoccupe concerne nos modes d'abstraction. À chaque époque, écrit Whitehead, une tâche cruciale de la philosophie est de cultiver la vigilance envers les modes d'abstraction qui équipent les pensées de cette époque. Car on n'abstrait jamais en général, toujours sur un mode déterminé. C'est ainsi dans le cas des OGM, leurs promoteurs voyaient le seul gain de productivité lié à la modification génétique, et c'est cette abstraction qui leur permettait de disqualifier d'un seul coup toutes les oppositions. Ils avaient pour eux les milliards de bouches à nourrir. On ne dira pas que les contestataires avaient accès à un OGM qui, lui, serait concret. S'ils ont pu faire sens en commun, c'est parce que leur mode d'abstraction divergent, faisant chacun importer une perspective particulière, ne sont pas entrés en compétition, n'ont pas lutté pour la primauté, les uns contre les autres. Si les modes d'abstraction méritent vigilance, c'est parce que, à chaque époque, certains peuvent prétendre à la primauté et renvoyer d'autres à l'insignifiance. Bref, prétendre à ce que Whitehead nomme un caractère concret mal placé. C'est ce qu'ont fait les biologistes de laboratoire lorsque, les définissant par les modifications génétiques qui les caractérisent, ils ont prétendu détenir la vérité scientifique des OGM. La tâche de la philosophie n'est pas de critiquer nos modes d'abstraction ou les savoirs spécialisés qui les mobilisent en tant que tels. Elle n'a pas pour vocation de leur opposer un savoir concret. Elle doit cultiver la vigilance envers les modes d'abstraction qui, à chaque époque, prétendent à un pouvoir prédateur, voyant ce qu'ils omettent à l'insignifiance. Et c'est pour qu'elle soit capable de ce devoir que Whitehead lui demande de ne rien éliminer de ce dont nous avons l'expérience, c'est-à-dire de ne jamais ratifier la légitimité d'une omission. Mais cela ne signifie pas de défendre le concret, bien plutôt de faire sentir, c'est-à-dire d'aviver ou d'intensifier ces dimensions de l'expérience qui insistent sourdement, omises par un mode d'abstraction. En d'autres termes, la philosophie de Whitehead n'est pas militante, retour à l'expérience, mais activiste au sens où elle active ce que peuvent si facilement faire taire nos modes d'abstraction. C'est pourquoi, selon Whitehead, l'argumentation ou la preuve ne conviennent pas à la philosophie, car qu'elles soient scientifiques, juridiques ou autres, toutes deux relèvent d'un mode d'abstraction particulier et doivent leur pourvoir à tout ce que ce mode d'abstraction leur donne le droit d'omettre. Or la philosophie ne peut jamais se donner un tel droit. Elle ne peut s'enorgueillir du haut fait d'expliquer en éliminant ce que son explication a besoin de négliger. Mais la preuve, en mathématiques, n'est qu'un chemin pour un type de compréhension porteuse de sa propre auto-évidence. Ouvrez les guillemets. Le but de tout discours philosophique devrait être de produire sa propre auto-évidence. Il est naturellement impossible d'atteindre une telle visée. Néanmoins, toute inférence en philosophie est un signe de l'imperfection qui s'attache à toutes les entreprises humaines. Ce que vise la philosophie est la manifestation pure et simple. Fermez les guillemets. Disclosure ne correspond pas à prise de conscience, avec sa connotation de dévoilement d'une vérité armée de pied en cap et jusque-là dissimulée ou refoulée. Quelque chose devient manifeste, mais il ne s'agit pas non plus de manifestation au sens phénoménologique, du genre apparaître de l'étang lui-même en son être manifeste. La manifestation ne s'oppose pas à la prise abstraite. Elle s'impose pour elle-même, purement et simplement. Et avec elle s'impose un autre mode de prise qui fait importer ce qu'on avait l'habitude d'omettre, qui fait s'arrêter à ce qui semblait anecdotique. En d'autres termes, la visée ouverte et affirmée de la philosophie devrait être d'activer les dimensions de l'expérience que nos modes d'abstraction perceptifs et linguistiques omettent. Et ce n'est pas pour rien que, dans « mode de pensée », Whitehead ose dire la parenté entre philosophie et poésie. Ce faisant, il ne prétend pas à la nécessité d'une qualité poétique des énoncés philosophiques. Il s'agit de tenter de, ouvrez les guillemets, « trouver une terminologie conventionnelle pour les vives suggestions des poètes », fermez les guillemets, de fabriquer des énoncés en prose, voire même prosaïque, qui soit susceptible de donner à ce qui est usuellement omis le pouvoir de faire vaciller la conscience. Ouvrez les guillemets. Notre jouissance de l'actualité est la réalisation d'une valeur, bonne ou mauvaise. C'est une expérience de valeur. Son expression fondamentale est « attention, voici quelque chose qui importe ». Oui, c'est l'expression la meilleure, le premier vacillement de la conscience révèle quelque chose qui importe. Fermez les guillemets. La tâche que Whitehead propose pour la philosophie, la vigilance envers nos modes d'abstraction, ne correspond donc pas à la mise en cause d'une conscience qui, sans l'intervention de la philosophie, resterait désespérément prisonnière de modes d'abstraction éventuellement inadéquats. Bien au contraire, c'est lorsque quelque chose nous demande soudain de faire attention, alors que jusque-là, nous n'en sentions pas l'importance, que nous nous sentons conscients. Pour Whitehead, la conscience n'est pas un attribut stable. Elle clignote, marquant une mise à l'aventure permanente des modes d'abstraction distribuant ce qui importe et ce qui peut être omis dans telle ou telle circonstance. Et c'est peut-être le goût de cette aventure que traduit l'imagination mise en branle par la fiction. Quoi qu'en disent ceux qui veulent nous enfermer dans le cadre fini de ce que nous pouvons légitimement savoir, nous savons bien qu'une vérité peut toujours en cacher une autre. Si la philosophie a une tâche de soudure, ce n'est donc pas entre deux réalités disparates, un sens commun prisonnier de ses routines et une imagination libre. En fait, après avoir fait cette proposition, Whitehead définit ce que vise cette soudure. Ouvrez les guillemets, réfréner les ardeurs des spécialistes et élargir le champ de leur imagination. Fermez les guillemets. Réfréner ne devrait pas évoquer l'image du pied qui pousse sur la pédale de frein, ou celle d'un sens commun policier constatant un excès de vitesse. Il s'agit plutôt de mettre en cause l'avancée effrénée d'une connaissance qui exige d'être protégée de tout ce qui pourrait la ralentir et qui, pour ce faire, canalise l'imagination de ceux qui se consacrent à cette avancée. Et Whitehead vise ici très particulièrement ces spécialistes modernes qu'il nomme les professionnels. Que l'on se souvienne des biologistes créateurs d'OGM. Ils savent bien que dans les champs, il peut se passer des choses qu'ils ne peuvent observer au laboratoire. mais cela n'active pas leur imagination. Cela s'arrangera, cela doit s'arranger, car ce genre de complications ne sont pas dignes d'arrêter le progrès. Ouvrez les guillemets, chaque profession fait des progrès, mais progresse selon sa propre routine, traçant son propre sillon. Le sillon empêche l'errance à travers le paysage et l'abstraction abstraite de quelque chose à laquelle aucune attention n'est plus prêtée. Le reste de la vie est traité d'une manière superficielle, avec les catégories imparfaites d'une pensée qui dérive de la profession. Fermez les guillemets. Les modes d'abstraction spécialisés de nos professionnels modernes sont ceux qui font importer ce que la modernité a appelé progrès. Et on ne s'étonnera pas alors que le progrès soit un mot d'ordre doté de significations conflictuelles, mais qui toutes s'entendent à propos de la nécessité de rompre avec le sens commun. Ces modes d'abstraction fonctionnent d'une manière que l'on peut qualifier de prédatrice, prétendant au pouvoir de disqualifier et faire taire. Mais ils ne peuvent être définis en eux-mêmes comme prédateurs. Ils le sont seulement dans la mesure où les professionnels leur confèrent ce pouvoir. Et où, bien sûr, ces professionnels sont reconnus comme serviteurs du progrès. Aucun mode spécialisé d'abstraction ne peut être coupable en soi. En revanche, on peut les dire tous non innocents, à la manière de Donna Haraway, et c'est par rapport à toute prétention à l'innocence qu'il s'agit d'être vigilant, par rapport à tout argument impliquant qu'il est légitime d'éliminer ou de négliger ce qu'un mode d'abstraction ne fait pas importer. Si aucun mode d'abstraction spécialisé n'est innocent, il ne s'agit donc pas de les dire tous suspects, voire tous coupables, comme si le devenir professionnel était une forme de destin attendant le spécialiste. Whitehead l'écrit souvent, il ne faut pas exagérer. Il pratique aussi une forme d'humour, un humour que l'on pourrait dire prosaïque. L'humour ne disqualifie pas ses cibles. Sa plus grande réussite est d'amener celles à qui il s'adresse à rire non d'elles-mêmes, mais de la manière dont elles avaient pris l'habitude de se représenter. Il est des professionnels qui reconnaissent qu'ils ont dominé par leur mode d'abstraction, mais ils se représenteront comme payant le prix exigé par ce qu'ils appellent leur vocation. Ce qui est assez exagéré. La vocation est un thème ancien qui n'impliquait pas un engagement aveugle, que du contraire. Nous n'avons pas à craindre de détruire des vocations en demandant que les spécialistes sachent qu'il y a un monde au-delà de leur sillon. Whitehead le souligne, la fabrique des professionnels, personne fixe au devoir fixe, est une innovation moderne, remontant au XXe siècle. Comme tel, évidemment, des personnes fixes au devoir fixe n'ont rien de nouveau. Mais les anciens professionnels étaient scribes, fonctionnaires ou astronomes, figures de la précision scrupuleuse et myope. Ce qui est nouveau pour Whitehead est le couplage entre profession et progrès, c'est-à-dire l'invention d'institutions où se cultivent des imaginations entreprenantes, mais aussi fragiles qu'elles ont à protéger contre les questions qui ne doivent pas les concerner. La professionnalisation pose donc la question du milieu qu'elle requiert, de son milieu associé, institutionnel, et de cet autre milieu qui doit, lui, se laisser tenir à distance ou doit s'imposer le respect pour un savoir dont l'autorité fait le vide autour de lui. Pour un mathématicien comme Whitehead, les mathématiques n'ont pas besoin de faire autorité, car les valeurs qu'elles font exister n'ont pas besoin de nier quoi que ce soit. Elles s'imposent par leur auto-évidence propre. C'est le milieu scolaire où elles sont inculquées qui peut fabriquer des automates, obéissant aveuglement à leur définition. De même pour les faits que mobilise l'argumentation ou la preuve. Leur fonctionnement peut être prédateur lorsqu'ils deviennent ce qui doit pouvoir être exigé pour être entendu. Où sont vos faits ? Mais le mot « fait » peut être prononcé avec l'intonation de l'ouvrier ou de l'artiste qui, prenant du recul et considérant ce qu'il a accompli, dit « voilà, c'est fait ». Cependant, ceux qui disent le fait comme accomplissement, qui insistent sur la différence entre « bien fait » et « mal fait », se heurtent à l'ironie d'une demande de définition et seront facilement accusés d'entretenir un attachement réactionnaire et ou romantique à de supposées vraies valeurs. De manière plus générale, le fonctionnement prédateur de certains modes d'abstraction est une affaire de milieu, et plus particulièrement de ce milieu associé à l'invention du professionnel moderne. La philosophie de Whitehead est donc située par une préoccupation qui renvoie d'abord à ce qui caractérise les milieux propres au monde moderne. Ceux qui ont fait de la philosophie elle-même une activité professionnelle, produisant notamment des énoncés squelettiques hantés par l'idéal du dictionnaire. Et parce qu'elle ne s'enracine pas dans le sol d'une vérité qu'elle déploierait, ni ne vise l'idéal hors situation qui donnerait sa vocation à la pensée, elle renonce à l'arme critique qui permet d'identifier et de dénoncer les dévoiements de la pensée. Ce faisant, on peut dire qu'elle répond à ce que Whitehead avait appelé le sens radical de la doctrine de l'évolution, qui ne connaît ni fondement ni idéal et qui n'entend pas la finitude au sens de limitation, car la limitation implique toujours une référence à ce qu'elle répute inaccessible, à une raison qui démontrerait que ce qui est devait être ainsi. Accepter la doctrine de l'évolution, c'est affirmer que ce qui existe aurait pu exister autrement, sans pour autant tomber dans l'ironie triste du relativisme, sans ressasser l'idéal mélancolique de cette vérité sans attache, hors sol, sans histoire, dont il annonce l'impossibilité. Le naturaliste qui contemple la merveille d'une araignée tissant sa toile peut être intrigué, mais il ne nourrit pas la moindre nostalgie pour la référence à un dieu créateur qui a voulu que cette araignée soit ce qu'elle est. Et Whitehead fait le pari d'un sens commun qui puisse être intrigué par nos savoirs spécialisés, sans pour autant leur prêter une autorité face à laquelle il ne pourrait que s'incliner. Et ce pari, bien sûr, pour ne pas être un vœu pieux, demande un changement de milieu.